Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est lumière. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de ce Dieu-là révélé par l'Écriture et de la part de Jésus-Christ, toujours vivant, notre Sauveur. Invoquons le Seigneur, notre Dieu. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, c'est l'oubli de chercher Dieu. Le contraire du prochain, ce n'est pas le lointain, l'alibi, c'est celui dont je m'éloigne. Le contraire de la vérité, ce n'est pas l'erreur ou l'hésitation, c'est le fait d'enfermer ou d'imposer sa vérité. Oui, tu es là parmi nous, Seigneur, rocher, Père céleste. Tu nous donnes ton esprit, afin que ta parole nous ouvre à ton amour. Amen. Nous écoutons comment Dieu veut être servi. Voici le culte auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de tous les jougs. Renvoie libre ce qu'on opprime et que l'on rompe toute espèce de joug. Et comme l'affirme l'apôtre Paul, vous avez été appelés à être libres. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Laissez-vous guider par l'amour véritable. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et nous confessons notre péché. Nous voici devant toi, tels que nous sommes, ô notre Dieu. Nous voulons te chercher. Nous avons tellement besoin de toi. Pardonne nos cœurs mal préparés, notre vie si médiocre, notre manque de foi. Aide-nous à réaliser ce qu'est ton amour et ta grâce. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Regarde-nous, Seigneur, regarde notre monde. confessons notre foi. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu, humble, souffrante, crucifiée. Il accepta la mort mieux que nous acceptons la vie. Il est ressuscité, il vient pour libérer l'homme de ses idoles et nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant, et vainement de l'Église, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Chers auditeurs, chers amis, je vous propose ces deux textes bibliques. D'abord, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Donc, il s'agit de la sortie d'Égypte et la révélation de Dieu, la vision de Dieu. La sortie d'Égypte, c'est donc qui est la sortie de l'oppression, dit le texte. Littéralement, c'est ce qui est exigu, l'esclavage, Mitzrayim. En hébreu, on a traditionnellement dit c'est l'Égypte, mais en fait c'est le mot Mitzrayim parle de l'oppression, l'esclavage. Et les Égyptiens avaient un autre mot à l'époque pour désigner leur pays, l'Égypte. C'est Kemetz qui a donné Copte. Kemetz, Copte. Donc dans le livre de l'Exode 3, ce n'est pas forcément, ça a été localisé par l'Égypte, mais c'est pas forcément l'Égypte. Mais cela peut désigner une autre terre d'oppression, d'esclavage, d'être écrasé. Donc ça peut être Babylone, ça peut être la Syrie, Syrie, Rome, ou aujourd'hui n'importe quel pays de dictature, tous les pays qui font du mal, donc tout ce qui nous enferme. Et puis, on a au milieu de ce récit qui s'historicise de façon différente, une vision, la vision de Dieu. Qui est-il, toi ? Qui es-tu, toi qui nous sauves ? Donc, cette vision représente un feu. On sait que pour Akhenaton, en Égypte, Dieu était un feu, une sorte de soleil au-delà du soleil. Pour Zoroastre, en Perse, c'était aussi cette vision pré-monothéiste qui désignait Dieu comme un feu subtil. Un feu, dans cette vision, qui est traversé pour Moïse, traversé par un buisson qui fait mal, un buisson piquant, un buisson du désert. Et puis là, la parole qui est adressée, c'est dire que Dieu a mal pour son peuple qui est persécuté. Et puis le deuxième texte que je vous propose, finalement, qui est une reprise de la révélation de Dieu à Moïse dans Exode 3, mais qui est repris par l'époque des prophètes chez Élie, c'est 1 roi 19, les versets 5 à 13. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc les chiffres 40 aussi désignent l'Exode. Il y a plein d'allusions dans la Bible. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté tout seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi devant la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. L'homme moderne appuie sur un bouton et un écran s'allume, celui de son portable, celui de l'ordinateur. Il tourne une clé ou une manette et c'est le vrombissement d'un moteur ou l'intelligence artificielle. Il glisse une pièce et c'est une canette de Coca-Cola ou d'Orangina qui tombe dans la machine automatique. Est-ce pareil pour Dieu ? J'ai des besoins, des questions, j'ai des doutes, j'appuie sur un bouton, je fais une prière, je tourne une clé, j'ouvre ma Bible, et automatiquement, comme un éclair qui déchire le ciel, comme un coup de tonnerre ou une tempête dans le désert, Dieu me donnerait de façon définitive et foudroyante, de façon spectaculaire et irréfutable, le signe, la réponse que j'attendais ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, cela ne se passe pas comme cela. Et pourtant, il y a une exigence de Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez. Et puis, il y a cette vision magnifique de Dieu lors de nos libérations d'Égypte, qui n'est pas forcément l'Égypte. Il faut sortir de nos esclavages. Et je commence par cette affirmation. Le véritable croyant, c'est moins que celui qui rejette la foi ou prend du recul au nom de quelque chose ou contre quelque chose. Le véritable croyant, c'est moins que celui qui, à l'inverse, mais finalement de façon semblable, se réfugie dans des dogmes sans recherche véritable, sans amour, sans demande. Donc, on est entre deux, entre celui qui croit savoir et qui rejette et celui qui affirme, mais qui ne s'intéresse pas, qui ne cherche pas. On est entre les deux, car le véritable croyant réalise que l'objet de sa foi reste infiniment plus élevé que tout ce qu'il peut connaître ou savoir ici-bas. Il sait qu'il ne sait pas, alors que celui qui refuse la foi l'imagine de façon un peu superstitieuse, l'imagine... Comme ça, la foi, c'est quelque chose de naïf, il imagine de façon irrationnelle. Lui se sent plus intelligent que la foi, il ne veut pas croire au Père Noël. Mais le croyant ne croit pas non plus au Père Noël. De même, le très dogmatique ne se préoccupe pas du but ultime de sa foi, ni de la rencontre avec l'autre. Il décline les pratiques gestuelles et les habitudes en se contentant des hiérarchies et des rapports de force, le pape ou le conseil régional, ou le synode national ou le conseil presbytéral. Le vrai croyant prie et ne reçoit pas toujours. Il cherche et ne comprend pas toujours. Il se pose souvent plus de questions que celui qui a déjà tout mis dans des boîtes de façon privative ou accumulatrice. Mais alors, donc, quelle est cette démarche questionnante et pourtant rassurée? Quelle est cette attitude que l'on nomme la foi? Quelle est-elle, cette présence si forte et si sûre et pourtant indéfinissable, qui fait de nous des croyants, nourris de Dieu, porteurs de Dieu et en route vers son royaume? Alors, c'est dans cette perspective que, chers auditeurs, je vous propose ce qui me semble vraiment la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, Exode 3, et puis 1 roi chapitre 19, qui nous sert finalement de parabole, qui nous permet de discerner différentes étapes dans la découverte spirituelle. Alors rappelons-nous la lecture de l'Ancien Testament. Élie est désespéré, déçu, abattu, persécuté. Il a le sentiment d'être tout seul. Il est abandonné de tous. Et c'est vrai qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a des moments où on se sent heureux, entouré, compris, encouragé. Et il y a des moments où on se sent incompris, oublié, abandonné, perdu. Il ne faut pas que notre foi repose uniquement sur l'ambiance positive de notre groupe. L'ambiance d'un groupe est toujours fragile, changeante. Elle ne nous conduira pas toujours nécessairement à Dieu. On peut être déçu, découragé, même par l'Église. Élie était découragé par le peuple de Dieu. Il quitte son groupe, il quitte la civilisation pour le désert. Et ce n'est qu'à la fin du récit que le prophète retrouvera une communauté que Dieu lui révélera. Élie, donc à ce moment, dans cette découverte de Dieu, Élie est seul, il marche dans le désert. Ça devient symbolique de tous nos déserts, de la spiritualité chrétienne. Donc, dans les moines du Moyen-Âge disaient être au désert, les protestants persécutés dans les Cévennes se disaient être au désert. C'est l'attitude presque normale du croyant qui cherche Dieu, et puis les choses ne sont pas évidentes. Et même quand Jésus était en Galilée, vous savez, la Galilée était verdoyante, ce n'est pas le Négev, ce n'est pas le sud d'Israël. Mais quand il était en Galilée avec ses disciples et la foule, il parlait du désert, c'est-à-dire que le lieu qu'il visitait était pour lui symbolique, comme lors de la sortie de ce qu'on dit Égypte, mais qui est le lieu de l'esclavage. La vie est un désert. Donc il ne faut pas être pessimiste, mais réaliste, et même tout à fait positif, puisque dans le désert de la vie, on y rencontre quelque chose de formidable, dans l'épreuve, quelque chose de merveilleux, Dieu. Le désert représente dans la Bible le lieu de la condition normale du croyant. Le croyant dans la Bible croit plus malgré qu'à cause de... Alors Élie marche seul dans ce lieu hostile, 40 jours et 40 nuits, donc la durée est symbolique, c'est le temps que Moïse passa seul au Sinaï, c'est le temps que Jésus passa au début de son ministère dans le désert. N'est-ce pas aussi une indication pour nous? Il faut du courage pour supporter la solitude, il faut du courage pour supporter ce que nous sommes dans la durée, apparemment sans rien pour nous soutenir. Ne fuyons pas le silence, le désert de la vie. Ce silence et ce désert sont vraiment constitutifs de notre vie. Soyons courageux. Élie assume cette réalité du désert, supporte la solitude et il cherche Dieu. Un grand vent, Dieu n'était pas dans le vent. Un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu du ciel, Dieu n'était pas dans le feu du ciel. Notre texte parle ensuite d'un silence au murmure doux et subtil. Dieu était dans le silence, le murmure doux et subtil. N'avons-nous pas ici la clé, oui, pour comprendre la présence de Dieu ou du Christ avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Pas quelque chose de manifeste, mais quelque chose de réel, de vrai, et d'humble à la fois. Et en plus, chers amis, les premiers commentateurs de l'Église ancienne ont vu dans cette page de l'Ancien Testament une première allusion à celui qui était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, juste avant la vision apaisante dont nous venons de parler. Après avoir beaucoup marché, le prophète s'était couché là dans le désert, prêt à mourir. Et la vision est magnifique. Un ange du Seigneur lui tend un gâteau et une cruche. Et il lui dit « Élie, lève-toi, mange et bois, car la route est trop longue pour toi. » Et une seconde fois, « Qu'est-ce que la Sainte Cène ? Lève-toi, mange et bois, car la route est trop longue pour toi. Lève-toi, mange et bois, car la route est trop longue pour toi. » La Sainte Cène que nous célébrons dans nos cultes protestants, mais pas tous les dimanches, mais c'est un temps assez formidable, symbolique et spirituel, très, très, très profond. La Sainte Cène n'est pas seulement un cercle dans le temple, être ensemble sous le regard de Dieu. La Sainte Cène, c'est une parole qui nous est adressée personnellement, dans la solitude, même si on est à côté les uns des autres. Parce qu'il y a un désert de la vie, de ma vie qui est premier, et une force dans ce geste m'est donnée. Mange et bois, car la route est trop longue pour toi. Nous pourrions nous arrêter là, en disant que le Christ, au moment de la scène, est comme l'ange du Seigneur qui nous dit « Mange et bois, car la route est trop longue pour toi. » Et nous dire si un jour, pour nous, le désert est trop aride, si les cailloux du chemin nous font mal, nous nous souviendrons de Jésus-Christ. Mais il y a encore plus que cela dans ce récit, plus que le souvenir. Il y a la nourriture spirituelle, extérieure à moi-même. Dieu, en quelque sorte, m'est donné, Christ m'est donné. Il y a une présence spirituelle, comme la nourriture que j'absorbe, que j'intègre et qui me vivifie. Je suis avec vous, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Nous renvoie à cette autre parole du Christ. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. D'où la valeur de notre présence au culte pour ces actes symboliques qu'on appelle sacrement. Bien sûr, c'est spirituellement qu'il nous faut entendre ces paroles. Quand Jésus tendait le pain de la scène à ses disciples en disant « Ceci est mon corps », il n'avait évidemment pas l'intention d'affirmer qu'il se tenait lui-même dans sa propre main. C'est spirituellement que nous devons recevoir ces paroles. Mais nous devons les recevoir. Celui qui mange ma chair, dit le Christ, et boit mon sang, a la vie éternelle. L'incarnation de Dieu en Jésus-Christ ne s'arrête pas à Jésus-Christ, mais par cette union spirituelle, le croyant avec son Sauveur, au moment de la scène, le Christ se transmet jusqu'à nous. Mange et bois, car la route est trop longue pour toi. Au moment de la scène, le chrétien reçoit, en quelque sorte, oui, vraiment, du Christ. L'image ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais dans une relecture de ces textes de la Bible hébraïque, relecture chrétienne de ces textes à partir des paroles les plus belles et les plus mystérieuses à la fois, de celui qui a dit « Ma chair est vraiment une nourriture ». Voyez que le discours de la foi ne résout pas toutes nos questions, mais en pose d'autres. On est dans le désert, dans la difficulté, dans la recherche, dans la non-évidence. Et puis on reçoit cet acte qui est une folie, et la Sainte Cène est une folie, la folie de la foi. Je marche dans le désert refleurit, je tombe découragé, l'ange du Seigneur me relève, mange et bois, car la route est trop longue pour toi. Combien de fois, Seigneur, combien de fois, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un savoir que l'on dominerait, mais une présence. Christ est aussi nécessaire à notre esprit que les aliments à notre corps. Une présence dans le secret de nos vies. Celui qui reçoit la Sainte Cène, dit « Je ne comprends pas, je ne m'en sens pas digne, mais je te reçois, Seigneur de la vie, merci pour tant d'amour. Tu viens à moi, je te reçois. Merci et pardon. » Alors, marche dans le désert de ta vie, avec comme carte d'orientation, bien sûr, la Bible aux multiples facettes, mais reçue et lue spirituellement. Méfie-toi de la foule changeante, superficielle, idolâtre. Méfie-toi de l'Église. Marche à contre-courant, avec les tempêtes, après les tempêtes, le feu du ciel. Écoute, recherche le murmure doux et subtil dans le silence de ta conscience. Dieu qui donne, qui se donne et qui pardonne. Écoute, vois et reçois. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, celui qui nous accompagne dans le désert et qui nous relève. Amen.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.